Des types comme Tommy DeSimone, Angelo Seppe, un autre type nommé Bobby le Maigre Amelia. Mais le pompon, c'était Jimmy Santos. Santos était un ancien flic qui était tombé pour vol à main armée. Il avait purgé sa peine, puis s'était allié à la pègre. Bon, Jimmy Santos connaissait tout le monde. Il savait qui était honnête et qui ne l'était pas, et qui pouvait être soudoyé ou non. Il savait quel type avait des maîtresses, et lesquelles étaient mises sur la paille par leur pension alimentaire. Il savait quel flic était joueur, et parmi ceux-ci, il savait lesquels avaient le plus de dettes. Il faisait passer le mot par l'intermédiaire de ses contacts au sein du département de police, et il faisait transférer qui il voulait à l'aéroport. Au final, les mafieux avaient peut-être la moitié de la police de l'aéroport dans leur poche. Et c'est comme ça que mon père s'est retrouvé impliqué. Il connaissait Santos? Il avait entendu parler de lui. Mon père était déjà sergent en 1967. Il était ici à Brooklyn. Il dirigeait le département qui gérait toute la paperasse pour les transferts d'une unité à une autre. Il avait deux types dans sa propre unité qui voulaient aller à l'aéroport, qui avait été rebaptisé JFK à l'époque. Bref, ça lui a semblé étrange, deux de ses meilleurs hommes qui demandaient le même transfert à 2 ou 3 mois d'intervalle. Alors il a creusé un peu et il a découvert le lien avec Santos. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est directement allé voir Santos et il lui a dit qu'il ne pouvait pas obtenir les hommes en question, pas sans payer. Vous me demandez de vous parler de mon père. Vous voulez savoir le genre d'homme que c'était? Voilà ce que c'était. Un escroc. Aucun doute là-dessus. Santos a commencé à payer à mon père une somme chaque mois, juste 200 $, histoire que les transferts se déroulent en douceur. Mon père était tuyauté pour savoir quel transfert avait été demandé par Santos, et il les validait vite fait. Cet arrangement a perduré jusqu'à la mutation de mon père au bureau de contrôle du crime organisé, en 1972. L'aéroport faisait alors partie du territoire couvert par le BCCO. Et leur principale priorité au niveau juridictionnel et opérationnel était d'y faire le ménage. Mais ils ne l'ont pas fait, n'est-ce pas? Ils ont fait le ménage, ça on peut le dire. Et mon connard de père était mouillé jusqu'au cou. Rien qu'au cours des 10 premiers mois de 1967, pour 2,2 millions de dollars de marchandises ont disparu de JFK. Ça, c'était la valeur des marchandises volées directement dans les containers et les chambres fortes du centre de fret aérien. La TWA a aussi perdu pour 2,5 millions de stocks. Et ces chiffres ne prennent pas en compte les marchandises qui ont été détournées en dehors de l'enceinte de l'aéroport. Croyez-moi, docteur Marie, tout ce qui a été volé à JFK, c'était de la petite bière comparée à ce qu'ils piquaient une fois que les camions avaient quitté le périmètre. Vous parlez des détournements et des cessions. Oui. Bon, l'une des difficultés que rencontraient le BCCO et la police à l'époque était que le corps législatif de l'État de New York n'avait pas officiellement reconnu le détournement comme un délit. Quiconque se faisait prendre pour détournement devait en fait être inculpé pour vol ou enlèvement, avec peut-être un chef d'inculpation pour port d'armes ou possession de marchandises volées, ce genre de truc. Et comme détourner un camion ne figurait pas encore dans le code pénal, il y avait une faille dans laquelle ces types pouvaient s'engouffrer. Ils avaient les moyens de se payer les meilleurs avocats. Et ils soudoyaient les tribunaux pour retarder les auditions et repousser la lecture des actes d'accusation. J'ai entendu dire qu'une affaire a été brinque-ballée entre les tribunaux et le bureau du procureur pendant 11 ans, et que, quand elle a finalement été jugée, le type a reçu une amende de 250 $. Ce qui nous amène à la Lufthansa. Oui, sauf que...
Sauf que vous devez y aller?
J'en ai peur.
Bon. Au moins c'était intéressant, Franck.
Demain. Nous parlerons de la Lufthansa demain.
Demain, c'est dimanche.
Lundi alors?
Va pour lundi.
Vous allez survivre toute une journée sans moi?
Je suis sûr que je me débrouillerai, Franck.
Bon. Vous avez mon dossier et mon numéro de téléphone doit y figurer quelque part. Si vous avez envie de parler à quelqu'un, passez-moi un coup de fil, ok?
C'est très gentil de votre part.
Prenez soin de vous.
Vous aussi, Franck. Vous aussi.
Chapitre 20. Tel un patchwork assemblé par un gamin maladroit, les jointures entre les différentes parties de sa vie étaient béantes et refusaient de se refermer avec le temps. Telle était l'impression que Parrish avait parfois. À d'autres moments, Il se sentait plein d'une détermination brûlante et féroce. Du sang sur les dents, disaient les Scandinaves. Vous flairiez l'odeur, vous mordiez à l'hameçon et l'affaire vous tirait vers elle. Alors, vous tiriez dans l'autre sens et ça commençait à se dérouler comme une pelote de ficelle. Durant les années 1940, la loi et la justice avaient semblé diverger. La loi avait servi ses propres intérêts, puis ceux des avocats. La justice, autrefois rapide et bon marché, était devenue laborieuse et onéreuse, aussi rare qu'un beau diamant. Les gens lisaient des romans, ils regardaient des films, ils voulaient que la vie soit comme ça. Mais elle ne l'était pas. Les gentils ne gagnaient pas toujours à la fin, et les méchants continuaient de courir. Frank Parrish estimait appartenir à une espèce en voie d'extinction, celle des gens qui ne s'en foutaient pas. Il ne se considérait pas comme un justicier ni comme un ardent défenseur de la loi. Mais il lui était arrivé de résoudre certaines enquêtes grâce à une persévérance et une détermination sans faille. Et elles concernaient toujours les enfants. Comme il le disait depuis longtemps, pour les enfants, il n'y avait aucune raison, aucune excuse. Et même si ni Rebecca ni Karen n'étaient des enfants, elles étaient assez jeunes pour ne pas avoir conscience des pièges et des embûches qui les attendaient. Les esprits obscurs de la ville étaient sortis en force. Et elles avaient été trop naïves, trop innocentes pour les voir. Et si Frank Parrish ne se souciait pas de ce qui se passait, alors, qui s'en soucierait? Il trimbalait un carnet dans sa poche et notait parfois des pensées qui lui venaient à l'esprit. Assis dans un café à 3 ou 4 blocs au sud du commissariat, quelque part vers Sherman Horn, il griffonna une phrase qu'il se rappelait d'une chanson de Tom Waits. Celle qui disait qu'il n'y avait pas vraiment de diable, que c'était simplement Dieu quand il était saoul. Il but son café, attendit que Jimmy Raddick le retrouve. Il pensa à Rebecca, à Karen, et tenta de toutes ses forces de se persuader que leur mort n'était pas liée. Mais impossible. C'est alors qu'il décida d'aller voir les parents de Karen. Raddick arriva peu après 11h30. Parrish lui fit part de son projet. « Et vous voulez y aller seul, exact ?»« Je crois que ça vaut mieux. Il s'agit d'une autre juridiction. »« Et quel est son nom ?»«
Karen Pulaski. P-U-L-A-S-K-I. »«
Et vous croyez qu'il y a un lien entre elle et la petite Lange ?»
Parrish secoua la tête.
« Instinctivement, oui. En réalité, probablement pas. Mais il faut que je vérifie. » Ça ne cessera pas de me turlupiner tant que je ne l'aurai pas fait. Ok, je vais retourner à la brigade. Qu'est-ce que je dis à Valderas? Dites-lui que vous ne savez pas où je suis. Dites-lui que nous nous retrouverons plus tard, que nous prenons notre service dans l'après-midi. Que vous êtes juste venu de bonne heure pour régler des paperasses ou je ne sais quoi.
Raddick se leva.
Appelez-moi si vous avez besoin de moi, ok?
Je n'y manquerai pas,
répondit Parrish. Parrish quitta Brooklyn à midi. Il marcha un peu, puis prit le métro à Navy Street. Entre Fulton et Clinton, Washington, il regarda instinctivement vers la gauche en direction de son propre appartement. Une femme était assise en face de lui, sur la droite. Elle disait « Faut-il sauver Piggy Sneed ?» Elle leva les yeux vers Parrish et celui-ci sourit. Il ouvrit la bouche pour faire un commentaire sur le livre, mais s'interrompit net en voyant l'expression de la femme. « Je ne vous connais pas. Ne songez pas à me parler. Dites un putain de mot et je hurle à vous déchirer les tympans. » Il se demanda quand le monde avait changé. Mais le monde avait-il vraiment changé, ou était-ce simplement sa perception? Il descendit à Broadway et prit une autre ligne en direction de Myrtle Avenue. Il se rappelait l'adresse des Pulaski dans Troutman Street, et il la trouva sans peine. La maison de grès de 3 étages avec un escalier à l'avant semblait froide et déserte, comme si personne ne l'habitait. Mais il grimpa tout de même les marches et frappa à la porte. C'est lorsqu'il entendit une voix à l'intérieur « Je vais ouvrir !» qu'il prit pleinement conscience de ce qu'il était en train de faire. La femme qui ouvrit la porte mesurait environ 1m65. Elle avait les cheveux châtains, les épaules larges et la taille fine. Elle portait un pantalon de survêtement et un t-shirt, et par-dessus un gilet gris et ample.